Rádio Scoopy. Radio Scoopy.
Henri Lefebvre.
Jacques Chancel. Henri Lefebvre, je crois pouvoir dire que vous êtes et que vous n'êtes pas dans le même temps philosophe, sociologue, ethnographe, géographe, économiste. Tout le monde dit que vous êtes l'un des grands penseurs de ce temps. Si je dis, vous allez avoir un grand sourire et cela va vous terriblement vous amuser. Je crois pouvoir dire, au contraire, que vous êtes un touriste et peut-être que nous sommes nous les voyageurs et de temps en temps vous nous prenez par la main. Est-ce une bonne image?
Pourquoi ne seriez-vous pas touriste et moi voyageur?
On peut également, on peut inverser les rôles.
Oui, on peut inverser les rôles. Et un voyage comporte un itinéraire, un parcours, et peut-être que mon parcours a consisté à traverser l'époque en révélant certains de ces aspects qui échappaient aux autres. Dans cette perspective, le voyageur est aussi philosophe et le philosophe est voyageur.
Mais lorsqu'on dit que vous êtes philosophe, sociologue, que vous êtes tout cela, vous êtes étonné ou vous recommandez une certaine discipline, philosophe?
Je crois me définir comme métaphilosophe. Et métaphilosophe, ça veut dire que la pensée, la réflexion, la méditation opèrent au-delà de la philosophie, c'est-à-dire en se servant de la philosophie, mais en posant et en tentant de résoudre des problèmes tels que la philosophie n'a pas pu les envisager. Par exemple, les problèmes que pose la pratique sociale, la pratique politique de notre époque. La philosophie classique, la philosophie au sens classique du terme, n'a pas les moyens d'envisager ces problèmes. Alors, le philosophe, au sens classique, est un peu en dehors des spécialisations. Et le philosophe, au sens où je l'entends, métaphilosophe, a traversé les spécialisations. Il lui faut avoir des connaissances, au moins avoir voyagé le long des frontières de l'ethnologie, le long des frontières de l'économie politique ou de la sociologie, pour arriver à avoir une vue d'ensemble sur tous les territoires, sur la topologie ou la topographie de notre époque. Ce travail, je l'appelle métaphilosophique.
Vous êtes Henri Lefebvre, pyrénéen. Est-on marqué par son enfance? Je sais bien que vous n'êtes pas resté très longtemps dans ce pays, mais vous y êtes revenu, ce qui est bien la preuve qu'on revient aux sources.
Je me sens très occitan. Je défends assez, comme je puis...
Du Pays Basque au Catalan.
Du Pays Basque à la Catalogne et à l'Occitanie et aux traditions cathares, au bûcher de Montségur, enfin, tout ce que vous connaissez.
Vous pensez que les montagnes unissent les hommes et ne les séparent pas, parce qu'on a tellement dit longtemps, il n'y a pas de Pyrénées.
Aujourd'hui, oui, plus que jamais, plus que jamais, il y a les Pyrénées. Oui, mais je crois à l'originalité de la civilisation méridionale française. Je crois à la diversité, je crois à la différence. Et j'ai tenté de donner une expression philosophique et une portée politique en émettant cette notion du droit à la différence. Je crois avoir été parmi ceux qui l'ont formulé. Et d'ailleurs, comme un certain nombre de concepts ou de notions que j'appelle métaphilosophiques, cette notion prise dans la pratique, prise dans la vie, et formulée tente à rentrer dans la vie comme un ferment, dans la vie pratique comme un ferment, en l'éclairant. Alors l'idée c'est de développer les droits de l'homme. Les derniers philosophes sont tombés à bras raccourcis sur cette notion abstraite de l'homme et ils risquaient de jeter le bébé avec l'eau du bain et d'envoyer promener les droits de l'homme en même temps que l'homme. Or, rien de plus précieux que les droits de l'homme. C'est le seul résultat de 150 ou 200 ans de convulsions révolutionnaires, le seul résultat précieux, le seul qui soit à la fois une valeur et une pratique. Et mon idée, c'est de développer les droits de l'homme et d'y faire entrer, par exemple, le droit à la différence, qui est quelque chose d'extraordinairement riche, qui vient de la vie, des luttes les plus concrètes, des rapports entre les ethnies, entre les races, entre les sexes, entre les régions, entre les nationalités. Et d'un côté, on a le principe d'homogénéité contraignant, politique au sens le plus dur du terme, et de l'autre, toutes les tendances à tirer de la situation actuelle quelque chose de plus riche, de plus complexe, d'irréductible à l'homogénéité, c'est la différence.
Vous êtes toujours méfié du centralisme parisien.
Ah, le centralisme parisien est à la fois pour moi fascinant et
inquiétant.
Très enrichissant et extraordinairement inquiétant. Mais là, j'aimerais dire quelques mots sur le fait que ce petit coin de territoire occitan auquel j'appartiens est une source, est un territoire de penseurs périphériques, mais qui jette sur la centralité parisienne, sur la vie parisienne, un regard un peu critique et assez éclairant. C'est dans ce coin de France méridionale et un peu périphérique que sont nés, ou c'est de ce coin que proviennent Roland Barthes, Georges Lapassade, Bourdieu, Jacques Berck, c'est-à-dire une bonne partie, enfin, de ceux qui font les sciences sociales actuelles, René Lourau et que d'autres. Vous voyez, il y a un regard périphérique sur Paris qui est, à mon avis, indispensable à Paris même.
Et ça suit ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire ce droit à la différence.
Mais ça vient, c'est aussi une illustration du droit à la différence, une illustration qui me paraît extrêmement concrète et actuelle.
Vous parliez tout à l'heure, Henri Lefebvre, de la liberté. Il y a tous ces avocats de la liberté, mais parfois on s'aperçoit qu'à force de défendre la personne, on martyrise l'individu.
Je crois qu'il y a des formes nouvelles de la liberté qui naissent.
La liberté humaine.
De la liberté, oui, mais la liberté a passé longtemps, a reçu longtemps une définition un peu abstraite, comme ça, la liberté d'opinion. Ça tend à s'épuiser, c'est un peu mort, cette liberté d'opinion. Bien sûr, elle est acquise, il faut l'enregistrer, il faut l'incarner dans les droits de l'homme, mais il faut aller maintenant plus loin. La liberté, c'est aussi la liberté du lieu, de donner une forme et une figure à un lieu, de s'attacher à un lieu sans... certains disent de s'enraciner, mais en fait ce n'est pas de se fixer au lieu, c'est d'avoir un point d'attache qui permette de rayonner. Moi, je me dirais assez facilement occitan et mondial, en sautant même allègrement par-dessus la francité. Mais enfin, le lieu de naissance, le lieu d'attachement, le lieu de référence est quelque chose de très important.
Enfin, vous êtes en ce moment très attaché à une nouvelle science qu'on pourrait appeler le monde. D'ailleurs, vous avez employé le mot « le monde est devenu mondial ».
Le monde est devenu mondial. C'est une formule un peu calquée sur celle d'un philosophe contemporain qui s'appelle Heidegger. Enfin, le monde est mondial, ça se dit en allemand « die Welt, Welt ». Bon, mais en France, seuls deux philosophes, Kostas Axelos, qui est un grec d'origine, et moi-même avons essayé de reprendre ce terme de mondialité, de et en lui donnant la plénitude de son sens. Pour moi, la mondialité, c'est une certaine figure de l'espace qui tend à se former au-delà des États, des nations, par le jeu de la division internationale du travail, par le jeu des stratégies politiques qui s'affrontent à cette échelle mondiale. Le mondial devient une notion essentielle pour penser notre état et notre situation dans l'horizon qui s'ouvre devant nous. Le mondial devient un concept de la philosophie, ou plus exactement de la métaphilosophie, telle que je l'entends.
Henri Lefebvre, vous dites dans Le Temps des Méprises, c'est votre dernier témoignage qui paraît en ce moment, si je racontais ma vie, je commencerais ainsi. Et la manière que vous avez de la raconter me paraît importante. Deux mauvaises fées se penchèrent sur mon berceau, la marchandise et la bureaucratie, car ma mère appartenait à une famille de commerçants et mon père était fonctionnaire, à la suite de quoi je hais la boutique et je déteste le bureau. Vous êtes toujours là ?
Oh oui, enfin je n'ai pas insisté, je suis resté pudique et discret sur un certain nombre d'expériences et d'aventures. En réalité, ce livre raconte un peu la vie politique, la vie idéologique, en laissant le rideau et l'ombre sur tout ce qu'il y a de plus secret, la vie érotique, la vie...
Oh, la vie amoureuse quand même.
La vie amoureuse, oh, il y a très peu de choses.
Oui, mais enfin, on les devine, ces choses.
Je me réserve de raconter par ailleurs ce que peut être pour un homme la conquête de l'amour et du plaisir et de la jouissance. C'est une autre affaire.
C'est à la fois une conquête et une découverte.
Une conquête, une découverte, une acquisition, une appropriation, une forme de la liberté.
Et un voyage à faire.
Et un voyage, un itinéraire dans l'amour, avec tous les écueils que cela comporte, tous les échecs, et toutes les erreurs, et toutes les réussites. Je crois que c'est un peu une autre affaire. Un des points qui, philosophiquement, me semble acquis, c'est le rapport très difficile à déterminer entre le conçu et le vécu. L'amour fait partie du vécu. Il avance à l'aveugle, en tâtonnant, en pleine chaleur, tandis que le conçu, le concept, est lumineux et froid. Et entre les deux, entre ces deux pôles, le concept lumineux, transparent et froid, et le vécu chaleureux, mais tâtonnant et aveugle, il y a un mouvement perpétuel. C'est ce que la terminologie philosophique appelle une dialectique.
Puis le vécu, c'est le quotidien des choses.
Le vécu, c'est le quotidien.
C'est au jour le jour,
aveugle, tâtonnant, cherchant sa voie péniblement. Et alors le concept, la conception doit s'efforcer de montrer la voie au vécu, de lui montrer son chemin, de lui frayer sa voie vers plus de liberté, plus d'accomplissement, plus de réalité.
Henri Lefebvre, lorsque vous parliez à vos élèves de cette manière, ils comprenaient votre attente et votre approche ?
Je crois. Mes rapports avec les étudiants à Strasbourg, à Nanterre, ont été plutôt bon, même assez efficace par certains côtés, surtout à Nanterre, je dois dire. L'un d'eux s'appelait, je profite de l'occasion pour rappeler que l'un d'eux s'appelle encore Daniel Cohn-Bendit et que dans des conditions assez étranges et assez injustes,
il
ne peut pas rentrer en France, ce qui mérite que ce soit un rappel.
Henri Lefebvre, il y a également deux autres affreuses sorcières. Je dis deux autres parce que je peux considérer comme sorcières et la marchandise. Et puis, je les appelle des mauvaises fées. Mais vous parlez de sorcières après, parlant de la religion et de la guerre.
Oui.
Or, la guerre, on peut comprendre. La religion, pour vous, est une sorcière.
Oui, puisque j'ai eu le malheur d'appartenir à une famille, enfin, très divisée. Mon père était un incrédule, un paillard, un homme sympathique. Mais ma mère était une terrible bigote, pour ne pas... pour employer le terme dans toute sa crudité. Je dois dire que l'enfance et l'adolescence dans ces conditions sont extrêmement dures et laissent des traces. Des traces durables, parce que un homme marqué par une enfance religieuse, par la pression religieuse sur son enfance, a de la peine à s'en sortir. Pour moi, j'ai commencé la philosophie par des recherches théologiques. Et puis, c'est après avoir découvert la cruauté du dogmatisme que je m'en suis détaché. Mais en même temps, ça a été une expérience indispensable. La compréhension du dogmatisme religieux a été importante pour me permettre de comprendre ce qu'était le dogmatisme stalinien.
Et de cette enfance viennent peut-être et votre ambiguïté et votre dualité, comme chez tout homme d'ailleurs.
Oui, probablement. Il y a des gens qui disent que je suis né sous le signe des Gémeaux et que c'est cela qui explique l'ambiguïté, mais j'aime autant l'expliquer comme vous, par l'enfance et par les difficultés d'une enfance prise déjà dans les contradictions, par exemple, entre... l'athéisme qui tente de jouir de la vie, et l'ascétisme, le piétisme ou la piété un petit peu trop forte.
Mais vous devriez d'ailleurs vous féliciter de cette difficulté de l'enfance parce que elle a fait de vous ce que vous êtes.
Oui, on peut toujours se féliciter d'avoir traversé des contradictions puisque les contradictions sont fécondes, mais elles sont douloureuses et à partir d'un certain degré, elles peuvent être écrasantes et engendrer l'angoisse. Et l'angoisse, on n'en sort plus. Vous voyez, il y a un point, un seuil autour duquel la contradiction ne laisse plus vivre.
Oui, mais
le poids des contradictions qui s'accumulent.
Mais un homme peut échapper à ces contradictions?
Non. Aucun homme n'échappe à son poids de contradiction.
Il faut vivre avec.
Mais les contradictions trop écrasantes, trop pesantes ne laissent plus vivre. Et alors c'est l'angoisse. C'est l'angoisse stérile. C'est l'angoisse dans laquelle on se renferme en soi-même. C'est l'angoisse du schizo qui ne trouve même plus la voie d'une expression quelconque vers le dehors. Donc, la contradiction peut être ravageuse, mais peut être destructrice. C'est la contradiction sur le point de se résoudre qui est féconde. Ça aussi, ça s'appelle dans la tradition philosophique la pensée dialectique.
Mais pour vous, pour un philosophe comme vous, Henri Lefebvre, il est bon de se pencher sur son passé?
Bon, enfin, ça dépend, c'est assez douloureux. Il vient un moment où on fait l'inventaire. D'ailleurs, je ne pense pas du tout que ce livre dont vous parlez soit la fin pour moi. En ce moment, je prépare un gros ouvrage sur l'État.
Je n'ai pas parlé de fin.
Non, ben, je vous remercie, ça, c'est gentil. Je prévois l'objection. Non, il vient un moment où on essaie de retracer justement l'itinéraire, la courbe suivie. Et je crois que ce moment vient tôt ou tard. Et ce n'est pas le moment de l'inventaire ou du bilan définitif. D'ailleurs, il n'y a jamais d'inventaire ou de bilan définitif. Mais c'est le moment de retracer la courbe, le voyage. De résumer le voyage, de faire le récit du voyage.
Vous avez eu la chance de rencontrer beaucoup d'hommes dans votre marche, dans votre démarche. Quelles ont été les plus agréables rencontres? Celles que vous avez pu faire avec des philosophes ou celles que vous avez suivies avec des poètes?
Si vous parlez d'agrément, je vous répondrai que les seules rencontres agréables sont celles de femmes.
Oui, d'ailleurs, vous dites que la première découverte fut une découverte amoureuse, donc exquise.
Il y a une base affective de la vie qui est dans un tissu, pour moi, un tissu continuel d'amour. Et même, ce qui est assez curieux, et ce que j'aurais pu dire dans ce livre, mais je ne l'ai pas souligné, c'est qu'en fait, une vie d'action et d'action politique se périodise d'une certaine manière et que le soubassement affectif fait que à chaque période d'action politique se joint un amour.
Bon, Henri Lefebvre, je sais que vous ne pouvez pas écrire de roman, je sais que vous ne pouvez véritablement être heureux que dans un combat politique, et pourtant vous êtes allergique à tout système. Encore une contradiction. Ou peut-être un sens très personnel de la liberté.
Je ne pense pas que la forme systématique soit la forme supérieure de la pensée. J'ai tenté de faire émerger un certain nombre de concepts dont j'ai parlé dans ce livre. L'aliénation, la mystification, la modernité, la différence. Enfin, ces concepts extraits de la vie pratique, formulés pour eux-mêmes, prennent une sorte d'existence propre mais momentanée. Et puis, ils rentrent dans le tissu dont ils sont nés, c'est-à-dire la vie pratique, la vie sociale, la vie politique. Et ils y jouent un rôle de catalyseur, d'analyseur, de ferment. Et alors, ces concepts ne sont pas extérieurs les uns aux autres. Entre l'aliénation politique qui supprime les différences et la revendication de la différence, il y a un lien très étroit. Mais ce n'est pas une architecture de systématique.
Et vous voulez un penseur sans étiquette. Aujourd'hui, parce que aujourd'hui votre cheminement est très solitaire.
Il a toujours été
de même.
Non, il a été relativement solitaire. C'est-à-dire que je me suis battu toujours en essayant d'être à l'avant-garde, mais avec quelques réserves expresses sur cette notion d'avant-garde qui me semble assez équivoque, assez dangereuse, enfin, et dont une certaine solitude, mais comme peut l'être une espèce, enfin, je ne voudrais pas aller trop loin dans cette voie et employer des expressions trop prétentieuses, mais il s'agit d'être dans la position de tête chercheuse. Et alors, on est forcément en tête par la tentative de lucidité et en cherchant les ennemis qui s'opposent à ce que la réalité du monde actuel trouve son chemin.
Mais lorsqu'on est, comme vous l'êtes, allergique à tout système, on est facilement excommunié. Un jour ou l'autre. Ce que vous avez été, d'ailleurs.
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. La dernière exclusion venant du mouvement communiste auquel j'ai appartenu pendant de très longues années.
Jusqu'en 58.
Jusqu'en 58.
Alors pourquoi avoir rompu avec le Parti communiste? C'était seulement l'affaire de Staline.
Pendant près de 10 ans, quelques amis et moi-même avons mené une opposition intérieure au parti. Il faut le dire, parce que dans les histoires officielles, et même dans les histoires qui ne sont pas officielles mais qui sont mal informées, ce mouvement oppositionnel intérieur au mouvement communiste international est passé sous silence. Il s'est formé, ce mouvement, il s'est constitué, en fait, des noyaux isolés se sont constitués dès le deuxième après-guerre, dès la libération, ou très vite après. Et d'abord, des noyaux très isolés, puis qui se sont renforcés, et qui, après la mort de Staline, et surtout après le 20e congrès du Parti communiste, sont devenus assez puissants pour mettre en danger les directions officielles des partis. Sauf peut-être en Italie, où Togliatti a eu l'habileté extraordinaire de désamorcer ce mouvement en lui laissant une expression plus libre, ce qui était extrêmement habile de sa part.
Tu as décidé de quitter le Parti communiste en 58, c'est-à-dire je ne sais plus combien d'années après votre entrée dans le parti. Est-ce prendre une réflexion tardive et la faire surtout?
L'opposition dont je viens de parler était battue en 58. J'ai expliqué comment nous avons mené l'opposition sur un terrain organisationnel encore plus qu'idéologique et comment elle a été battue, mais battue à l'échelle internationale avec des événements très importants comme ce qui s'est passé en Pologne, ce qui s'est passé en Hongrie. C'est pas du tout une opposition seulement idéologique et philosophique, c'est une opposition politique, c'est un travail d'opposition politique. En 58, nous sommes battus et je sens qu'une nouvelle période se prépare, que la protestation, la contestation va abandonner le mouvement communiste, que j'estime dépérissant, et qu'elle va prendre des formes extérieures à ce mouvement. En 58, c'est un pressentiment, mais c'est un pressentiment qui va se vérifier tout de suite, qu'une nouvelle période, celle qui va être de la contestation radicale, se prépare. Et bientôt, c'est confirmé tout de suite par la montée de Fidel Castro, par les mouvements d'étudiants, par tout ce qui va culminer en 1968. Et alors, si je quitte à ce moment-là le parti communiste, c'est par exemple en publiant un manifeste du romantisme révolutionnaire et puis quelques autres textes dont je puis dire qu'ils sont des espèces de jalons à l'entrée de la période nouvelle. Alors, ce n'est pas une simple humeur subjective, ce n'est pas simplement un épisode ou un fait tout à fait contingent, un hasard personnel, c'est quelque chose qui marque une certaine date, une certaine période.
Et c'est une période nouvelle pour vous ?
Oh, pas seulement pour moi, une période à l'échelle mondiale, puisque ça va culminer avec 1968, c'est-à-dire la mise en cause simultanée du capitalisme d'État à Paris et du socialisme d'État à Prague. Et puis, avec et aussi la révolution culturelle, enfin, et puis les mouvements d'étudiants aux États-Unis et ainsi de suite, la guérilla urbaine en Amérique latine. Enfin, c'est une période qui se termine en 1972 environ, et nous entrons en 1972 dans une autre période dont nous ne voyons pas encore très bien.
Mais vous êtes optimiste.
Pas très.
À la différence, parce que Marcuse, lui, est pessimiste. Henri Lefebvre.
Marcuse est un esprit systématique. Oui.
Ce que vous n'êtes pas.
Ce que je ne suis pas. Marcuse a essayé d'enfermer son époque dans un système. Et tout au plus de prévoir quelques phénomènes aberrants, quelques actions de desperados. Mais je ne crois pas du tout que le monde actuel soit enfermé dans un tel système. Même à l'échelle mondiale, ce n'est pas un système qui se forme. C'est une configuration nouvelle. C'est ce qui est tout à fait autre chose, une configuration nouvelle de force, de réalité, une configuration spatiale nouvelle, c'est tout à fait autre chose qu'un système. Le système de Marcuse est un sociologisme, tandis que l'analyse que je tente du monde moderne est tout à fait autre chose. Je tente d'analyser des stratégies et des conflits, des interférences de stratégies et de voir ce qui en résulte à l'échelle mondiale, ce qui est tout à fait autre chose.
Henri Lefebvre, cette liberté que vous souhaitez, cette liberté que vous étudiez, que vous appelez, vous pensez que le monde l'aura un jour, telle que vous la souhaitez?
La lutte est terrible. Il y a un conflit, d'une manière un petit peu sommaire, qui se confirme et qui s'approfondit entre ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas dans la société. Ce qui vient d'en bas, c'est la demande. La demande sociale, c'est tout ce qui a rapport avec l'usage, avec l'appropriation ou la réappropriation de l'espace, avec les mouvements des habitants, enfin, et ça c'est la base de la société qui réclame, qui revendique, qui arrive à revendiquer qualitativement, à mettre en cause le système de décision au sommet, et ainsi de suite. Et puis, viennent dans des décisions, la confirmation d'une pyramide sociale établie, d'une hiérarchie. La base met en cause cette hiérarchie et le sommet étatique et politique de la société, y compris d'ailleurs les partis politiques, dans la mesure où ils sont conservatifs, et ils sont largement conservatifs en tant que partis institués, eh bien le sommet de la société se maintient contre ces mouvements à la base qui sont très inégaux dans le monde mais qui existent un petit peu partout, et c'est là, à la base, qu'apparaissent les nouvelles formes de la liberté.
Henri Lefebvre, un philosophe doit-il prendre le risque de se tromper?
Oh oui.
Au jour le jour, c'est le quotidien.
L'expérience, la pratique vient dire si c'est trompé ou si ne s'est pas trompé. Mais de toute façon, le risque d'erreur est grand et l'échec est à peu près inévitable, puisque la réussite, la victoire, vient rarement pour celui qui tente de marcher en tête du combat. Il est généralement soit vaincu, soit mis de côté au cours du combat, pendant qu'interviennent le gros des troupes, excusez cette métaphore un peu trop militaire, enfin stratégique.
Enfin, de tous côtés, on parle de la fin de l'humanisme. Vous n'avez pas ce pessimisme, vous?
Je distingue humanisme, homme en comme entité, comme abstraction, et droit de l'homme comme étant le fondement même du mouvement démocratique et du mouvement de la base dans le monde. Le mouvement de la base ne peut pas se faire sans la défense et l'approfondissement et l'extension de ces fameux droits de l'homme sur lesquels on ne saurait trop insister, et sur la conquête de nouveaux droits. J'ai essayé d'en formuler d'autres, hein, le droit à la différence, par exemple, le droit à la ville aussi. Bon, pour les gens qui sont écartés dans le fin fond des banlieues, dans les périphéries, quelles qu'elles soient, ce qui fait à la société et la civilisation leur est enlevé, car ça suppose confrontation, rassemblement, rencontre, donc quelque chose qui se passe dans le centre.
Mais ces gens-là souhaitent-ils s'installer dans la ville ? Le droit à la ville, le veulent-ils ?
Il semble qu'ils le veulent, puisqu'ils réclament obscurément mais fréquemment contre l'isolement, contre la ségrégation, contre les manques de ceci ou de cela, d'équipement, de culture. Ce mouvement est extrêmement profond, et c'est un mouvement à la base. C'est lui aussi qui tend à donner une nouvelle figure au monde.
Henri Lefebvre, j'en reviens à cette rupture avec le Parti communiste. Il doit être difficile de rompre avec une idée. Sauf lorsque le philosophe a sa somme d'idées à raccrocher.
Mais il ne s'agit pas de rompre avec l'idée du communisme. Je trouve que ceux qu'on appelle les communistes n'ont plus rien de communiste. Je pense qu'il y a deux mythes dans le monde contemporain que je combats, le mythe de l'anticommunisme et le mythe du communisme. Je pense que le communisme est à reformuler entièrement, que les définitions qui se trouvent dans Marx, dans Engels, dans Lénine, du communisme doivent être reconsidérées, qu'elles sont incomplètes et qu'elles doivent être mises, enfin, c'est ce que j'appelle l'aggiornamento de la pensée marxiste. Il faut les reconsidérer en fonction de ce qu'est le monde moderne, de ce qu'est la mondialité.
Vous estimez que adhérer à un groupe, c'est démissionner?
Pas exactement.
Démissionner de soi-même.
Non, j'ai constamment été en rapport avec des groupes, et encore maintenant.
Sans aucune discipline.
Ce n'est pas tout. Je ne sais pas si...
Je ne vous vois pas discipliné, mais je me trompe peut-être.
Moi, je me vois assez discipliné. J'ai été un membre très discipliné du Parti communiste pendant un certain nombre d'années. Et j'ai été militant dans un temps où il n'y en avait pas énormément et où nous avons fait le parti tel qu'il n'est plus d'ailleurs, mais tel qu'il a été dans une situation qui a fait sa force entre 1930, par exemple, et 1936 ou 37. Un certain nombre de gens dont je garde un souvenir très vif ont fait le parti à la base, toujours à la base. Le parti communiste à ce moment-là était une contre-société. Et je me suis permis de donner cette définition. C'était une autre manière de vivre. Ce n'était pas une technique politique. Ce n'était pas la lutte pour le pouvoir. C'était déjà ou encore l'action pour changer la vie. Et nous étions déjà dans une autre société. Il y avait entre nous des liens de fraternité, de camaraderie chaleureuse. Et très peu ou pas du tout d'ambition politique, pas de hiérarchie. Et à partir d'un certain moment, sous influence soviétique et donc stalinienne, le Parti communiste est devenu un contre-État, un appareil destiné à remplacer l'appareil d'État existant, à se substituer à lui, ce qui est une toute autre conception de l'action révolutionnaire. C'est cette transformation que j'ai vécue et que je signale dans ce livre, tout en disant qu'elle a été extrêmement dure et qu'elle a évidemment des raisons dites historiques. Elle ne s'est pas passée par hasard. Ce n'est pas une une simple détérioration, ce n'est pas un simple déclin. Il y a quelque chose de plus, il y a eu des causes profondes pour l'échec de ce mouvement tel que nous l'avons vécu dans les années d'avant-guerre et qui a disparu après la guerre, remplacé par autre chose.
Nous cultivons, dites-vous, les méprises et les illusions. C'est le temps des méprises. Quelles méprises, quelles illusions.
Oui, oui, oui. Ben, quand on me demande l'explication de ce titre, je dis que c'est
un joli
chose.
Titre, d'ailleurs.
Oui, oui. C'est quelque chose entre le temps des cerises et le temps du mépris.
Le temps des cerises, c'est le début du siècle, pardon.
Oui, mais c'est la Révolution.
Et le temps du mépris, c'est aujourd'hui.
Bon, mais c'est le temps du mépris, c'est il y a une bonne partie d'amertume dans cette idée. Non, mais c'est le temps des méprises. Alors, les méprises ont été multiples. Et j'en souligne quelques-unes dans ce livre. La première méprise, c'est qu'on a cru transformer le monde. Et ce qu'on a fait, c'est constituer un appareil d'État gigantesque. Vous savez lequel ? Mais il y en a eu bien d'autres, des méprises. Peut-être que ce livre est même le résultat d'une méprise. Mais il y en a eu bien d'autres. Quand les surréalistes croyaient eux aussi changer la vie et qu'ils faisaient de la littérature, il y avait une méprise. Quand la gauche fournit des idées à la droite, comme celle de la croissance ou de la planification, et qu'elle croit être elle-même et lutter pour le pouvoir, il y a méprise. Enfin, je pense que notre temps est un temps de mystification, d'équivoque, d'échange singulier entre les positions et tout ce jeu complexe que j'ai essayé d'analyser sous ce titre, le temps des méprises.
Vous allez librement entre l'histoire et l'utopie. Alors que faut-il choisir ?
Comment ?
Que faut-il choisir ?
Ah ben, l'utopie d'aujourd'hui, peut-être la réalité de demain, c'est la maxime même de ceux qui essaient de prévoir. Bon, on peut appeler ça utopie, d'autres l'appellent prospective ou prospection ou projection, dans la mesure où on y joint un peu d'imagination et une tentative pour se figurer ce que sera la vie lorsque certaines conditions auront changé. On est utopiste, mais on peut appeler cela, d'un terme plus scientifique, on peut l'appeler aussi prospective, pourquoi pas. On essaie de projeter au-delà de ce qu'on est aujourd'hui, un certain nombre, on essaie d'en envisager le possible et l'impossible, et de voir à quel moment le possible se distinguera et comment il se distinguera de l'impossible, inversement.
Pourquoi n'aimez-vous pas la littérature ? Vous méfiez des mots, vous en avez peur ? Vous voulez aller à l'essentiel.
Je me méfie de la littérature comme étant une production un peu spécialisée, un peu trop spécialisée, comme étant un art de l'écriture, et un art, l'art de l'écrivain qui... L'écrivain qui passe son temps à se demander ce qu'est l'écriture et ce qu'il va faire de son écriture me paraît assez suspect. J'ai essayé de dire que, au-delà de la littérature, il y a les œuvres que j'appelle translittéraires, et dont j'ai tenté de donner une toute petite liste. J'y mets des œuvres très connues et d'autres moins connues. Dans les translittéraires, j'y mets le Zarathoustra, ou bien d'autres, des œuvres moins connues comme les admirables lettres d'amour de Diderot à Sophie Volant. Enfin, c'est assez connu, mais pour moi, c'est de la translittérature parce que c'est une expression passionnelle qui ne ménage pas sa voix, qui ne prévoit pas son effet, ou qui, si elle prévoit un effet, c'est simplement l'effet sur un être unique.
Vous revenez souvent au mot amour, au mot démarche amoureuse.
Oui. Mais c'est le soubassement affectif, c'est la base affective.
C'est l'accompagnement de la vie.
Oui, mais je ne pense pas qu'une vie de lutte puisse se concevoir sans un appui affectif. Les hommes, je ne dis pas d'action, mais de lutte telles qu'on les connaît, ont eu comme ce soutien perpétuel d'amour ou d'affectivité. Enfin, on ne peut pas, la lutte serait épuisante si elle n'était pas nourrie, portée par une passion ou des passions. Vous ne pensez pas ? Moi, je crois.
Enfin, vous êtes né avec ce siècle, vous l'avez bien épousé. Un écrivain politique change sans arrêt en cours de route.
Épousé, non, traversé, oui.
Traversé.
Oui, traversé.
Parce que votre œuvre est dispersée, on a l'impression qu'elle est dispersée comme votre vie.
Je ne crois
vous
pas.
Vous avez voulu être partout.
Non, je ne crois pas à cette dispersion, justement. Ce livre, je l'ai écrit, enfin, je l'ai dicté, ou je l'ai parlé, plus exactement, un peu pour protester contre cette interprétation. Je crois avoir tenté simultanément de rétablir dans son intégralité ou dans son authenticité, encore que ce terme ne soit pas très heureux, la pensée d'un certain Marx, et simultanément d'avoir appliqué sa méthode d'analyse à ce monde qui changeait, car il y a du nouveau depuis un siècle, il y a beaucoup de nouveau depuis que le Capital ou la critique du programme de Gotha ont paru, c'est-à-dire juste depuis un siècle, il y a beaucoup de nouveautés, le monde s'est transformé, un certain nombre de concepts qui se trouvent dans Marx restent valables mais ont besoin d'être modifiés, un certain nombre d'autres concepts sont caducs, un certain nombre de concepts nouveaux doivent être introduits, et cet aggiornamento, cette mise à jour du marxisme, je l'ai tenté, et pour l'accomplir, j'étais amené à m'occuper de problèmes tels que la ville, l'architecture, l'urbanisme, l'espace en général, la planification dans l'espace, qui a remplacé de façon toute récente la planification par d'anciennes méthodes. Alors tout cela exige un effort perpétuel, à la fois de retour aux sources de la pensée marxiste révolutionnaire et une étude du monde tel qu'il naît et qu'il se transforme sous nos yeux. Alors c'est ce double mouvement qui, à mon avis, fait l'unité de ce que j'ai tenté d'écrire.
Henri Lefebvre, vous dites que nous entrons maintenant dans une ère nouvelle. Qu'appelez-vous la fin de l'histoire ?
La fin de l'histoire,
c'est-à-dire il faut en finir d'être organisé comme nous le sommes et d'être en plein progrès.
La fin de l'histoire, d'abord, c'est une prévision qu'ont fait tous les penseurs historiques. Hegel, Marx ont très tenté de distinguer la préhistoire, l'histoire et la post-histoire, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Voilà, et il n'y a pas de pensée historique profonde qui n'essaie de situer l'histoire entre deux périodes dont l'une s'appelle préhistoire, et le mot est courant, et l'autre s'appelle post-histoire, le mot est moins employé, mais il a la même signification. Alors, ce que j'ai voulu dire par fin de l'histoire, c'est qu'il y a eu un temps historique dans lequel des événements se déroulant dans le temps jouaient un rôle primordial. Et maintenant, on se trouve dans un univers où l'espace a plus d'importance que le temps, et où des stratégies se confrontent. Alors il ne s'agit plus de cette histoire, cette suite d'événements qui avançaient ou qui n'avançaient pas, et qui se déroulaient d'une façon peu prévisible par et pour leurs acteurs eux-mêmes. Il s'agit de stratégies, c'est-à-dire de plans d'action dans lesquels entrent, avec des supputations et des calculs extrêmement minutieux, toutes les ressources mises en œuvre, dans lesquels les objectifs sont calculés avec le plus grand soin par des spécialistes qui disposent d'un équipement technique formidable, par exemple d'ordinateurs. Et cela, il y a des grandes stratégies mondiales. Il y en a au moins trois, comme nous le savons, et ça dessine un monde qui est tout à fait différent d'un monde où il n'y aurait que deux stratégies. Il y en a trois, hein, la stratégie américaine impérialiste, la stratégie soviétique et la stratégie chinoise. Et nous savons que là où il y a trois stratégies, le monde est différent du monde à deux stratégies, je ne saurais trop insister là-dessus. Il y a trois stratégies essentielles. Et on n'est plus dans un monde historique de facteurs plus ou moins imprévus, se conjuguant, se rassemblant en conjoncture elle-même imprévue. On a des stratégies avec des renversements possibles d'alliances, avec des intrigues prodigieusement compliquées, parce que autour de ces grandes stratégies, il y a l'entrecroisement de mille stratégies mineures.
Et quelle est la stratégie la plus valable? C'est la stratégie chinoise pour vous ? La plus difficile à accepter.
Oui, je me félicite de son existence. Je ne vous dis pas que j'y adhère. Je me félicite de son existence puisque ça fait un monde autre qu'un monde à deux stratégies.
Il fallait le faire, mais c'est bien que d'autres l'aient fait.
C'est très bien. Je crois que votre formule est excellente. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait l'accepter tel quel. Parce que la Chine, bon, la Chine est loin. La Chine est un pays à prédominance agraire. On ne peut pas transférer les schémas d'action et les projets politiques d'un pays à prédominance agraire dans un pays occidental, industrialisé, même très industrialisé, très urbanisé. Il faut prendre les plus grandes précautions pour faire ce transfert. À mon avis, donc, il est excellent que la stratégie chinoise existe, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être maoïste.
Henri Lefebvre, après toutes ces années de réflexion, que retient-on de l'enfance ?
De
l'enfance.
De l'enfance, tout est rien.
On est déjà en
germe dans son enfance, mais seulement en germe. Quand quelqu'un pense à l'enfant qu'il fut, quand il essaie de se pencher sur son passé, il se retrouve, mais il se retrouve dans un tel état d'obscurité tâtonnante qu'il ne se reconnaît pas.
Le royaume des anges.
Oui, c'est extrêmement difficile de reconstituer son enfance. C'est la plus grande difficulté pour le récit romanesque, par exemple. Je crois pas que beaucoup de romanciers aient réussi à reconstituer un temps de tâtonnement, enfin le vécu intégral, le vécu qui ne sait pas ce qui va sortir de lui. Nous le savons. En nous penchant sur notre passé, sur notre enfance, nous savons ce qui en est sorti. Mais l'enfant que nous étions ne sait pas ce qu'il préparait, ne savait pas ce qu'il préparait. Donc il nous est impossible de le retrouver. Et pourtant nous le reconnaissons, nous le retrouvons dans une certaine mesure. Nous essayons de reconstituer, de repenser, de retrouver ce royaume de l'ombre, en effet. Mais ce royaume de l'ombre tout pénétré d'éclairs et de jeux de lumière.
Et les liens avec les grands penseurs que vous avez rencontrés dans les livres, ces liens sont-ils faciles à assumer ? Comment se retrouver dans Marx, dans Hegel, dans Nietzsche ?
C'est un réseau de contradictions. C'est un réseau de contradictions. Et je crois, enfin, mon expérience, puisque vous m'interrogez sur ce point, de l'écriture, c'est que l'écriture sert à se démêler dans les contradictions. Elle sert à trouver dans le réseau, dans le paquet de contradictions.
L'écriture est tricheuse.
L'écriture est un peu tricheuse, c'est-à-dire qu'il faut s'en méfier. L'écriture valorise, l'écriture met l'accent sur ceci ou cela, mais elle est indispensable pour arriver à tirer de l'écheveau du paquet de contradictions telle ou telle, à la formuler, à trouver un fil, ou des fils conducteurs, à démêler des fils dans le paquet, dans l'écheveau.
Enfin, il est vrai qu'il y a un ciel intellectuel, mais à votre avis de philosophe Henri Lefebvre, y a-t-il quelque part des divinités ? Considérez-vous ces grands penseurs comme des divinités ? Serez-vous un jour pour d'autres étudiants une divinité ?
Pas du tout, je ne pense pas, je pense même
que mortel, hein.
déjà Hegel, Marx, Nietzsche et quelques autres, Freud... Heidegger, qui ont dominé l'époque et qui ont brillé dans le ciel de la pensée, ils entrent déjà dans le royaume des ombres. La lumière qu'ils ont diffusée s'obscurcit déjà parce que le monde change et qu'il y a déjà autre chose.
Reste des traces tout de même.
Il reste des traces. Hegel a éclairé ce phénomène fondamental de notre époque qui est l'État. Marx a éclairé ce phénomène fondamental de notre époque qui est la production. Nietzsche a éclairé ce phénomène fondamental de notre époque qui est la protestation, la contestation, la contre-culture.
Et le changement tout de suite.
Et le changement immédiat et l'appel à quelque chose d'autre, de tout à fait autre. Freud, bien d'autres ont éclairé d'autres aspects, mais le monde change et je ne pense pas qu'on puisse tirer de n'importe quelle de ses œuvres une recette ou un procédé pour créer ou pour déblayer le chemin devant nous. Je crois qu'il faut constamment trouver autre chose, inventer de nouveaux concepts, de nouvelles rationalisations ou de nouvelles intuitions.
Et vous êtes ce chercheur parmi d'autres chercheurs, et l'homme qui parle avec vous, l'homme de la rue que vous rencontrez, peut vous comprendre ?
J'essaie de me faire comprendre.
Vous avez parlé tout à l'heure de tête chercheuse, oui. D'homme en avant.
J'essaie de me faire comprendre, je crois que ça m'est arrivé quelquefois, mais je ne suis pas sûr de parler le langage de la vie quotidienne par le fait même que je tente de faire une théorie de la vie quotidienne. Il est possible que par ce seul fait, je sois en dehors, parce que le lien de la théorie avec la pratique et du langage théorique, avec le langage courant et le langage quotidien, est extrêmement difficile à trouver. Quelqu'un l'a trouvé, c'est Marx.
Tout à l'heure, je parlais, en commençant cet entretien, je parlais de voyageurs, et il est vrai que le philosophe est un voyageur parce qu'il passe sa vie à errer. Vous êtes dans l'errance.
Oh ben, il vaut mieux être dans l'errance que dans l'erreur perpétuelle. Mais exactement dans l'errance. Mais dans l'errance orientée, si j'ose dire. Il y a tout de même des points de repère, des jalons dans notre époque. Des événements décisifs dans l'histoire politique, notamment. L'histoire politique est jalonnée d'événements significatifs. Qui ne sont pas toujours drôles, qui ne sont pas gays, ou qui ne correspondent pas aux attentes et aux prévisions, et des surprises et des méprises. La vie politique de notre époque en est pleine. Mais ces surprises et ces méprises la jalonnent, l'orientent, montrent un certain chemin à suivre ou à ne pas suivre.
Henri Lefebvre, nous avons tous notre royaume des ombres, mais un homme peut-il véritablement se connaître, tout seul ? Sans l'appui de quelqu'un, en s'interrogeant.
Je crois qu'un homme se découvre perpétuellement dans son rapport avec d'autres, avec des amours, avec des femmes, ou une femme avec, se découvre dans son rapport avec un homme ou des hommes. La découverte est toujours un rapport avec l'autre. Le philosophe à ce site particulier, qui cherche à se découvrir dans son rapport avec son temps, ou le métaphilosophe, suivant la formule que j'ai tenté de lancer tout à l'heure, il tente de se découvrir dans son rapport avec l'intégralité de son temps. Et pour ça, il faut qu'il s'efforce de couvrir un horizon assez vaste, qui est une très grande ambition et comporte beaucoup de risques d'échecs.
Tout à l'heure, Henri Lefebvre, vous parliez de votre lieu de naissance, c'est-à-dire des Pyrénées, vous parliez du droit à la différence, et vous parliez d'une civilisation, cette civilisation que l'on dit méridionale et qui l'est. Mais lorsqu'on parle de civilisation méridionale, il faut bien reconnaître que c'est une civilisation du verbe.
C'est une civilisation rhétorique.
Je me rappelle avoir trouvé dans un de vos livres, je crois que c'est une béarnaise qui devait dire « Je ne pense bien que lorsque je parle ». Enfin, à peu près dans...
Incontestablement, c'est une civilisation rhétorique. Mais à mon avis, ce n'est pas par hasard que mon grand ami Roland Barthes, qui en est originaire et qui passe ses vacances à côté de mon village, formulé dans la pensée contemporaine un certain nombre de principes et de lois du langage, notamment le code de la rhétorique. Mais il y a quelque chose de plus, c'est l'invention de l'amour courtois. La civilisation méridionale, la civilisation occitane, c'est l'invention de cette forme d'amour qui a été l'amour individuel. Et donc il faut donner une définition extrêmement large. Je pense que l'amour courtois, c'est l'amour qui a découvert la jouissance féminine. Et que aimer, c'est aussi faire jouir. Ça, c'est, nous entrons dans le domaine un peu plus secret que j'ai essayé d'éviter dans ce livre.
Roland Barthes, lui, ne l'a pas évité.
Il ne l'a pas évité.
L'amour courtois.
Oui, 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 mais encore qu'il se borne un petit peu à la jouissance du texte, hein, que j'irai jusqu'à quelques idées plus charnelles. Mais là aussi, j'aimerais pour le moment mettre un voile.
Mais à un certain moment, le philosophe peut faire également du nationalisme, parce que parlant des différences, vous parlez des pays, de tous ces pays, vous avez parlé de l'Occitanie, vous auriez pu parler des Basques, vous auriez pu parler des Bretons, ou d'autres pays, et vous avez peur que ces pays soient envahis par les touristes, et vous avez cette phrase qui peut faire peur, parce que les touristes sont également des hommes. Le tourisme véhicule la banalité.
Oui. C'est...
Vous êtes touriste de temps en temps, quand même, dans votre vie.
C'est vrai.
Vous êtes donc banal.
Oui, mais il est certain que ce qu'on appelle le tourisme a été un agent d'homogénéisation et de banalisation dans le monde moderne. En Espagne, on en sait quelque chose. Et ailleurs aussi. Et alors, il se trouve que le tourisme est une des grandes industries du monde moderne. En tant que sociologue, j'étais amené à étudier ce phénomène, même à diriger une enquête internationale sur le tourisme, ce qui est assez curieux. C'est peut-être la principale industrie du capitalisme moderne, autant que le pétrole et l'acier. Je ne sais pas s'il fallait classer les industries par ordre d'importance, si le tourisme ne viendrait pas en premier lieu. Et le bassin de la Méditerranée, envahi par le tourisme, pose quelques questions assez graves. Là, vous voyez en quel sens j'ai pu écrire cette phrase que vous citez, qui est en effet un petit peu critique vis-à-vis d'un des grands phénomènes de masse de notre époque.
Henri Lefebvre, vos rêves d'homme ont-ils à un moment ou à un autre été trahis ? Où le sont-ils en ce moment ?
Peut-être les ai-je trahis moi-même, mais les rêves restent une source, enfin les rêves d'amour, de liberté, de joie, peut-être de vérité, sont une des sources de la pensée et de la réflexion. Quand on s'efforce d'allier la pensée et le rêve, on dit généralement en termes philosophiques qu'on médite plus qu'on parle de réflexion. Mais la méditation fait aussi partie de la philosophie et elle s'entretient avec le rêve.
Henri Lefebvre, pour Malraux, la vérité d'un homme commence toujours à partir de ce qu'il cache. C'est votre avis ?
Oui, on peut dire cela, sauf que le mot « caché » semble...
Et qu'il révélera d'ailleurs un jour,
oui,
parce que l'homme arrive toujours à révéler.
Il semble trop intentionnel dans cette phrase. Il y a la pudeur, il y a la discrétion, il y a l'idée d'une vérité autre que la vérité du conçu. La vérité du vécu me semble autre que la vérité du conçu. Et tout cela, c'est ce qui est inclus dans la pensée, mais ça ne veut pas dire que ça soit caché ou dissimulé comme une espèce de mauvaise conscience ou de mensonge. Non, c'est la pensée que vous citez me semble juste, mais avec quelques restrictions. Elle est d'ailleurs une pensée très nietzschéenne.
On parle toujours, Henri Lefebvre, des portes du royaume des ombres. On pourrait également parler des portes de sortie. On peut en sortir.
On peut en sortir, mais c'est un peu le voyage au bout de la nuit, il faut bien dire.
Ce qui est de merveilleux avec vous, les philosophes, c'est que vous réussissez tous vos échecs.
C'est une phrase que j'ai empruntée à une jeune fille que j'ai citée dans mon livre.
Merci Henri Lefebvre. France Inter, bientôt 18h, j'ai accueilli aujourd'hui Henri Lefebvre, philosophe. Vous le retrouverez chez Stock dans le temps des méprises. Radioscopie Jacques Chancel, demain un autre rendez-vous, demain le ministre de l'Information, le secrétaire d'État à l'Information, André Rossi.